Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Priant, mon Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau fichier. Donc, qui couvre les trois derniers chapitres de Saint Matthieu, de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitres 26, 27 et 28, sont les chapitres importants, puisque c'est l'histoire de la Passion de notre Seigneur. Donc, c'est un nouveau fichier audio, mais aussi un nouveau fichier PDF. Donc, vous avez le polycopier, si vous voulez, pour vous aider dans ce cours, à la page 1. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 26. Avec les versets 1 et 2. Il arriva que, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque se fera dans 2 jours, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Et là, on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ va annoncer plusieurs fois, non pas une fois, mais plusieurs fois à ses apôtres, sa crucifixion. À chaque fois, il leur explique, ou presque, à chaque fois, il leur explique qu'il va non seulement être crucifié, être livré aux pharisiens, aux prêtres juifs, mais qu'il ressuscitera le troisième jour. Ils ne se rappelleront que de la première partie de la prophétie. Ils oublieront complètement la deuxième partie. Ce qui fait que lorsque les apôtres vont voir qu'effectivement la crucifixion a eu lieu, ils vont se décourager totalement parce qu'ils ont séparé la crucifixion et la résurrection. Ils ont oublié la résurrection. Et on voit à ce moment-là tous les disciples, tous, sauf la Sainte Vierge Marie, pratiquement perdre la foi. Alors, il faut d'abord insister sur ce mot Pâque. La Pâque juive, le mot Pâque en juif, signifiait le passage. Le passage d'un mode de vie à un autre mode de vie. Historiquement, cette fête de Pâques rappelait le passage des Hébreux, du peuple hébreu, quittant l'Égypte, terre dans laquelle ils étaient gardés comme esclaves, pour aller dans la terre promise. Et vous savez que ce voyage a duré finalement 40 ans, et qu'à cause de la révolte constante des Juifs, contre leur chef spirituel, Moïse, eh bien, aucun de ceux qui ont quitté la terre promise, qui ont quitté, pardon, la terre d'Égypte, ne vont voir la terre promise, ne vont pénétrer la terre promise, sauf Josué et Caleb. Même le grand Moïse verra la terre promise de loin, mais il n'y pénétrera pas, il mourra avant. Et cette Pâque rappelle donc ce qu'avait demandé de faire Dieu a son peuple choisi de l'Ancien Testament. Il leur avait dit, vous allez prendre un agneau, leur dit-il. C'est au livre de l'Exode, chapitre 12. Je vous rappelle le texte historique qui vous fera comprendre un peu plus facilement la nouvelle Pâque que notre Seigneur Jésus-Christ vient achever, puisque la fête de Pâques du temps de l'Ancien Testament annonce évidemment la nouvelle Pâque, à savoir l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le texte. Le dixième jour de ce mois, qui sera pour vous le premier des mois de l'année, que chacun prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra en commun avec le voisin le plus proche, selon le nombre des personnes, et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous prendrez soit un agneau, soit un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte dans les maisons où on le mangera. On en mangera la chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien cru ou bouilli dans l'eau, mais tout sera rôti au feu, tête, jambes et entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi, les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de Yahvé. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exécuterai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahvé, le sang sera un signe en votre faveur sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point pour vous de plaie meurtrière quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Yahvé. Et vous le célébrerez de génération en génération comme une institution perpétuelle. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé du premier jour au 7e sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée. On ne fera aucun travail pendant ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chacun. Vous observerez les azimes, car c'est en ce jour même que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour de génération en génération comme une institution perpétuelle. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. 7 jours durant, il ne doit pas se trouver de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse convoqua donc tous les anciens d'Israël et leur dit, choisissez et prenez un agneau pour vos familles et immolez la Pâque. Puis prenant un bouquet d'hyssope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez avec le sang qui sera dans le bassin, le linteau et les deux montants de la porte. Nul d'entre vous ne sortira de l'entrée de sa maison jusqu'au matin. Yahvé passera pour frapper l'Égypte et en voyant le sang sur le linteau et sur les deux montants, Yahvé passera à vos portes et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cet ordre comme une institution pour vous et pour tous vos enfants à perpétuité. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que Yahvé vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ce rite sacré. Et quand vos enfants vous diront « Quelle signification a pour vous ce rite sacré ?» vous répondrez « C'est un sacrifice de Pâques en l'honneur de Yahvé qui a passé par-dessous les maisons et des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. » Et le peuple s'inclina, se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que Yahvé avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ainsi firent-ils. Alors au milieu de la nuit, Yahvé frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva pendant la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut une grande clameur en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez servir Yahvé, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » « Les Égyptiens, précisément le peuple, ayant hâte de le renvoyer du pays, car il disait « Nous sommes tous morts ». Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée, ayant serré dans leur manteau les corbeilles, les mirent sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël firent, selon la parole de Moïse, ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Et Yahvé avait fait trouver au peuple faveur aux yeux des Égyptiens, car ils cueillirent leurs demandes. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Voilà ce texte très connu du livre de l'Exode. Excuse d'avoir lu un peu longuement, mais c'est important pour comprendre. Donc la Pâque, la fête de Pâques, c'était d'abord le rappel historique de cette première Pâque des Hébreux. Et notre Seigneur Jésus-Christ va instituer une nouvelle Pâque qui va remplacer la Pâque ancienne, parce que la première Pâque annonçait en avance déjà la nouvelle Pâque, donc au sens allégorique. Rappelez-vous ce que c'est que le sens allégorique. L'Ancien Testament explique ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, avec son sang, va protéger son peuple, à savoir nous les catholiques, va protéger son peuple de l'attaque de Pharaon, c'est-à-dire de l'attaque du démon. Et le sang de l'agneau qui badigeonnait le pourtour, le linteau des portes des Hébreux, qui protégeait les maisons dans lesquelles étaient les Hébreux, est le symbole évidemment du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous protéger. Et donc c'est déjà là le symbole de la Sainte Messe, le symbole du sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les pères font remarquer que notre Seigneur ne dit pas « la Pâque sera ou viendra » mais « se fera ». Pour montrer qu'il ne voulait point parler de la Pâque qui se célébrait conformément à la loi, mais d'une Pâque nouvelle, telle que l'on n'avait point faite jusqu'alors. C'est pour ça que le mot Pâque a un sens de passage. Sens mystérieux, parce que c'est en ce jour que Jésus-Christ a passé du monde à son Père, de la corruption à l'incorruptibilité, de la mort à la vie, et qu'il a délivré le monde de l'esclavage du démon par son passage plein de grâce. Donc c'est un changement en quelque sorte de propriétaire. Nous étions propriété du démon, nous devenons propriété de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions enfants de la colère, enfants de démon, nous devenons enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que cette Pâque, ce passage, n'est pas simplement le symbole de la Sainte Messe, mais également le symbole du baptême. Donc le passage de la mer Rouge symbolise également le baptême. C'est-à-dire on passe d'une armée, l'armée des Égyptiens, donc l'armée des adorateurs du démon, les Égyptiens adoraient les démons, on passe d'une armée qui adore le démon, l'armée du monde, avec ses pompes et ses œuvres, à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce sang de l'agneau représente le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est le passage du monde, de Jésus-Christ du monde à son Père, c'est-à-dire qu'il va ressusciter d'entre les morts le troisième jour, fin de la fête de Pâques en quelque sorte, et par ce passage, il monte au ciel pour ouvrir les portes du paradis qui étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Donc c'est le passage, disent les pères, de la corruption à l'incorruptibilité, du péché à la vertu, de la mort à la vie, de l'esclavage du démon à l'esclavage volontaire à notre Seigneur Jésus-Christ. L'esclavage du démon au passage plein de grâce. C'est-à-dire, on suivait le démon par obligation, nous allons maintenant suivre notre Seigneur Jésus-Christ par amour. Après les deux jours, disent les pères, de la brillante lumière qui rependent l'Ancien et le Nouveau Testament, la véritable Pâque est célébrée. Nous célébrons aussi notre Pâque ou notre passage si nous laissons les choses de la terre pour nous hâter et nous diriger vers les choses du ciel. Ça, c'est une très belle phrase des pères. Je répète, donc ce passage, cette fête de Pâques, c'est aussi une fête de Pâques pour nous. Si nous laissons les choses de la terre pour nous hâter et nous diriger vers les choses du ciel. C'est l'abandon d'une société homocentrique, humaniste, centrée sur l'homme, la société de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et on passe de cette société à une société au contraire théocentrique, centrée sur l'homme. On passe de la société des droits de l'homme à la société des droits de Dieu. On passe d'une société centrée sur l'homme, sur l'homme qui se révolte contre Dieu, on passe à une société de Dieu qui rachète par sa passion la colère de l'homme, l'orgueil de l'homme. Donc on passe d'une liberté, égalité, fraternité de l'homme moderne, de l'homme révolutionnaire, à la pauvreté, chasteté et obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On passe de la déclaration des droits de l'homme de 1789 à la déclaration des droits de Dieu, à savoir les 10 commandements de Dieu. Et ceci est très important à comprendre, mes chers frères. Toute la foi catholique est là. Toute la foi catholique, justement, consiste, avec l'aide des sacrements, à faire ce passage. Passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Passer les choses de la terre pour passer aux choses du ciel. Nous ne sommes ici-bas que des viateurs, que des voyageurs qui ne faisons que passer. Il nous faut donc changer de monde pour passer à un monde nouveau. Et ça, c'est capital à expliquer, parce que c'est, je crois, la différence essentielle qui existe entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II. L'Église catholique est une Église qui nous demande de laisser les choses de la terre pour nous diriger vers les choses du ciel. L'Église du Vatican II est au contraire une Église qui est donnée aux hommes pour que les hommes gardent leur cœur, leur attraction, leur sensation ici-bas sur la terre. L'Église du Vatican II, c'est donc l'Église de la liberté, d'égalité et de fraternité. L'Église catholique, c'est l'Église de la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. L'Église du Vatican II, c'est l'Église des droits de l'homme. L'Église catholique, c'est l'Église des droits de Dieu. Et on voit donc qu'il y a une incompatibilité totale, absolument totale, entre l'Église du Vatican II et l'Église catholique. Et ceci est très important, parce que si vous avez compris ça, comprenez tout. Et vous comprendrez à ce moment-là par vous-même que c'est une folie que de vouloir marier les principes de la Révolution avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de dire que l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont une seule et même Église, c'est un blasphème, il n'y a pas d'autre mot. C'est le blasphème parce que c'est demander aux âmes de se tourner vers la terre, alors que le bon Dieu dans l'Église catholique nous demande d'abandonner, de laisser les choses de la terre pour nous diriger vers les choses du ciel. Et il n'y a rien pour moi de plus grave que de mentir aux fidèles en leur faisant croire que justement l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont une seule et même Église. Alors que ce sont deux Églises totalement différentes, une est centrée sur l'homme, l'autre est centrée sur Dieu. L'une est centrée sur un Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme puisse monter au ciel. L'Église de Vatican II, au contraire, est centrée sur un homme qui devient Dieu et qui prend la place de Dieu en lui disant « Je n'ai pas besoin de vous ». Donc l'Église de Vatican II, c'est l'Église qui se dresse devant Dieu en hurlant « Je ne servirai pas ». L'Église catholique, au contraire, c'est l'Église qui rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix, et que le Christ que nous prêchons est un Christ crucifié mais ressuscité d'entre les morts le troisième jour. C'est ça la fête de Pâques. Donc quand le Christ eut rempli son rôle de maître, il commença à se préparer par son rôle de rédempteur et de sauveur. On pourrait parler pendant des heures sur ce sujet qui est très important à comprendre. N'oubliez pas, mes bien chers frères, après tout ce que je viens de vous expliquer, que puisque la fête de Pâques représente le sacrifice rédempteur, le monde moderne qui déteste la fête de Pâques, le monde moderne qui ne veut pas justement laisser les choses de la terre pour se diriger vers les choses du ciel, va tout faire pour éliminer l'usage de ce sang divin qui mène les hommes vers le bon Dieu. Et c'est pour cela que l'Église de Vatican II, qui adore le monde, l'Église de Vatican II qui suit la révolte du démon, de Lucifer, c'est pour cela que l'Église de Vatican II a tout fait pour éliminer le Saint Sacrifice de la Messe. C'est la nouvelle messe de 1969. Et donc pour éliminer la nouvelle messe, l'Église de Vatican II a soigneusement, un an avant, en 1968, éliminer le sacerdoce en changeant le rituel de l'ordination sacerdotale qui avait pourtant 2000 ans d'âge, et pour être sûr d'abattre complètement le sacerdoce, a également changé, l'Église de Vatican II a également changé le rituel de consécration des évêques, puisque le prêtre devient prêtre par l'imposition des mains de l'évêque. Et donc le démon, sachant très bien ce qu'il fait, a utilisé l'Église de Vatican II pour détruire et le sacerdoce catholique et l'épiscopat catholique, afin de détruire la messe catholique. Détruisant la messe catholique, l'homme n'aura plus accès à ce sang rédempteur. Et évidemment, comme ce sang rédempteur est nécessaire au salut, on ne peut pas monter au ciel, passer des choses de la terre sans passer, pour nous diriger vers les choses du ciel sans utiliser le sang de la messe. Eh bien, les portes du ciel sont fermées. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, mes bien chers frères. Voilà pourquoi il est tellement important d'expliquer ça à nos enfants, de donner à nos enfants l'amour de la Sainte Messe. Et surtout, mes bien chers frères, de comprendre que pour garder la messe, il faut garder le sacerdoce. Pour garder le Saint sacrifice de la messe, pour garder plus exactement la présence réelle, la présence eucharistique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme une perle précieuse qu'il faut protéger par deux écrins. Le premier écrin, c'est la messe, le deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Alors, soyez pas surpris si l'Église de Vatican II, évidemment, collabore à cette destruction de la messe, parce que l'Église de Vatican II ne veut plus que les âmes aillent au ciel. Elle veut que les âmes trouvent leur paix ici-bas sur la terre. Se sentir bien ici-bas. Pas souffrir, pas mourir, devenir Dieu ici-bas sur la terre. Alors que l'Église catholique, au contraire, nous prêche la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, la montée au ciel, par l'abandon de notre volonté propre, pour nous couvrir de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, surtout dans ce domaine-là, il faut être tussuriste, il faut aller au plus sûr. Il y a l'obligation grave, sous peine de péché mortel, d'être tussuriste quand il s'agit du salut des autres et des sacrements. Tussuriste, ça veut dire quoi? Tussur en latin, ça veut dire le plus sûr. Il faut aller toujours au plus sûr. En matière de sacrements, on ne peut pas jouer avec la validité des sacrements. Voilà pourquoi Mgr Lefebvre voulait, avec raison, que tous les adultes ou même les enfants qui avaient été confirmés avec le nouveau rituel de la confirmation en 1971 soient reconfirmés et sous condition, justement à cause du tussurisme. Voilà pourquoi Mgr Lefebvre aussi réordonnait sous condition les prêtres qui le lui demandaient, qui avaient été ordonnés hors de l'enfantée des abbayes, bien sûr, qui avaient été ordonnés prêtres avec le nouveau rituel de 1968, précisément parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ce nouveau rituel était valide. Il y avait un doute énorme avec l'ordination des prêtres, un doute énorme avec la consécration des évêques d'après le rituel de 68. Donc, deux doutes énormes rajoutés l'un à l'autre pour être pratiquement sûr que la nouvelle ordination sacerdotale est invalide. Eh bien, chers frères, il faut se battre pour sauvegarder tout ça. Un des signes, pour moi, de l'écroulement de la fraternité sacerdotale, Saint-Pédis, il est là. Monseigneur Williamson en a parlé dans une de ses lettres avec raison. Moi-même, j'ai pu vérifier ça aussi par les renseignements que j'ai. La fraternité Saint-Pédis, maintenant, ne demande plus que ceux qui ont été ordonnés avec nous, qui ont été confirmés avec le nouveau rite de 71, soient reconfirmés sous condition. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis, notamment en Suisse, accepte maintenant d'avoir des prêtres qui viennent travailler avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui ont été ordonnés avec le nouveau rituel de 68, consacrés prêtres, ordonnés prêtres par des évêques qui ont eux-mêmes été consacrés avec le nouveau rituel de 68. On n'est même plus sûr qu'ils sont prêtres. C'est gravissime, parce que si effectivement le nouveau rituel d'ordination sacerdotale et de consécration épiscopale est invalide, ce qui est le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prêtres qui ont été ordonnés prêtres avec le nouveau rituel de 68 dans l'Église de Vatican II sont des simples laïcs. Et s'ils sont simples laïcs, quand ils consacrent, quand ils prononcent les paroles de la consécration sur le pain et le vin, ça reste du pain, ça reste du vin. Quand ces laïcs qui se croient prêtres prononcent les paroles de l'absolution sacerdotale, de l'absolution sacerdotale sur le pénitent qui regrette ses péchés, qui croit être pardonné. Aucun péché n'est pardonné. Parce que c'est un laïc que vous confessez. Voilà, voilà la gravité de la situation. Et ça, c'est un crime pour moi. J'étais absolument scandalisé quand j'ai appris que maintenant, dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, ils acceptaient, ils demandaient, ils interdisaient de plus en plus les reconfirmations sous condition, les réordinations sous condition. Quel malheur! Quelle trahison! Chapitre 26 de Saint Matthieu, versets 3 à 5. Alors les princes des prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe. Il tint un conseil pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais il disait que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Là, on voit encore très bien, vous voyez, cette révolution, si vous voulez, entre l'Église incapable d'accepter le sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui correspond à l'Église de Vatican II, c'est l'Église des pharisiens, l'Église juive, qui est devenue mortifère, qui va devenir mortifère avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'Église catholique, qui va naître justement de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que les pharisiens, le peuple, les pharisiens, les princes des prêtres et les prêtres juifs vont vouloir se saisir de Jésus par ruse pour le faire mourir. Parce que précisément, ils ne veulent pas abandonner le monde ici-bas et que pour eux, le monde ici-bas, c'est Dieu. Alors pourquoi les juifs attendent toujours l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'il est déjà venu? Il y a des notes intéressantes des pères en page 1 de ce polycopier donc qui court les chapitres 26, 27 et 28 de Saint Matthieu. Le démon ne voulait pas que le Christ souffrit pendant la fête de Pâques pour ne point donner un trop grand éclat à son supplice. Quant aux princes des prêtres, peu sensibles à la crainte de Dieu, à l'énormité bien plus grande d'un crime commis pendant cette grande fête, ils n'étaient préoccupés que d'une crainte toute humaine. C'est-à-dire que l'arrestation de Jésus ne suscita quelque tumulte parmi le peuple. Ils protégeaient leurs arrières, c'est tout. Comme nos politiciens d'aujourd'hui. Comme les évêques de l'Église de Vatican II qui ne pensent qu'à une seule chose, aux choses d'ici-bas. Il fallait en effet que les promesses annoncées depuis si longtemps par des mystères figuratifs, ça c'est des bénédictions de l'Ancien Testament, eussent un accomplissement visible et éclatant et que le véritable agneau prit la place de celui qu'il avait figuré et qu'un sacrifice unique tint lieu désormais des victimes multipliées de l'ancienne loi. C'est pour cela que le rideau du temple va se déchirer à Jérusalem pour bien marquer le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, le sacrifice rédempteur est accompli. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est maintenant dans le Nouveau Testament. Et donc, il faut utiliser ce sang, sacrifice de la messe, ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, pour effacer les péchés. Voilà pourquoi on n'a plus besoin du sang des sacrifices et des animaux de l'Ancien Testament, parce que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ va prendre la place de ce sang des animaux qui représentait à notre Seigneur Jésus-Christ à venir. Maintenant, les sacrifices des agneaux et des chevreaux de l'Ancien Testament, on n'a absolument plus le droit de les suivre et de les faire parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Je vous l'ai déjà dit, c'est ce que les prêtres franciscains, quand ils sont arrivés au Mexique, qu'ils ont vu les abominations de l'église des Aztèques. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que pour l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan à Mexico, il y a eu 70 000 victimes humaines, toutes des jeunes gens, des jeunes filles. On leur ouvrait le cœur au sommet des pyramides pour offrir le cœur tout palpitant au faux Dieu, au Dieu Soleil. Et qu'est-ce qu'ont fait les ministres du Christ, les prêtres franciscains? Ils ont dit, mais vous n'avez plus besoin de ce sang, puisque maintenant vous avez un autre sang qui va aller descendre sur l'autel
et savoir le sort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première chose qu'a fait Cortés en arrivant, il a vu les cadavres, les têtes coupées, les cadavres pourrissant sur place de toutes ces victimes humaines, sacrifices humains. Il a cassé la statue qui était au sommet de la pyramide et l'a remplacée par une statue de Notre-Dame. Justement parce que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ venait remplacer le sang humain. Malheureusement, les franciscains n'ont pas réussi au début à convertir le peuple des Aztèques, le peuple mexicain. Notamment, il faut le dire, à cause du mauvais exemple qui était donné par beaucoup de soldats. Il a fallu que la Très Sainte Vierge Marie s'en mêle par l'apparition à Juan Diego en 1531, 12 décembre 1531, l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, elle est apparue à Juan Diego, au Tepeyac, donc actuellement c'est en pleine ville de Mexico, est apparue comme une indienne, avec les pieds sur le croissant de lune, alors que les Aztèques adoraient la lune, pour bien montrer qu'elle était supérieure au croissant de lune, qui symbolisait le démon. Elle était enceinte, attendant l'enfant Jésus qui, par son sacrifice de la croix, allait écraser le pouvoir du démon. Et à ce moment-là, tout le peuple s'est converti. On dit, et c'est très vrai, que le sang des hommes répandu dans la rue est inversement proportionnel à la quantité de sang divin répandu sur l'autel. Plus il y a de messes célébrées, moins il y a de sang, surtout des enfants innocents tués par avortement chaque jour sur la terre d'ici-bas. Au contraire, plus il y a de messes célébrées, de véritables messes célébrées, moins il y aura de sang humain répandu dans les rues. Si au contraire la messe disparaît, le démon va prendre la place du bon Dieu et va répandre le sang des hommes. C'est exactement ce qu'on voit actuellement. Quand vous pensez aux millions et millions d'enfants découpés en rondelles dans le sein de leur mère, depuis la loi Veil en France et dans tous les autres pays du monde pratiquement maintenant, c'est millions et millions d'enfants morts. Et en plus, morts sans baptême, donc qui ne pourront jamais voir Dieu, et qui sont au limbe, et qui crient vengeance. Voilà pourquoi le crime d'avortement est un crime qui crie vengeance contre le ciel. L'Église classifie ce péché d'avortement dans une catégorie spéciale, les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Le premier, c'est le meurtre de l'innocent, et le deuxième, c'est le péché de sodomie. De péchés qui se sont répandus comme des traînées de poudre dans le monde moderne. Alors, mes bien chers frères, que faut-il faire? Se tirer une balle dans la tête? Non, pas du tout. Mais se battre pour protéger la messe, se battre pour protéger le sacerdoce. Même si on ne sait plus, malheureusement, où envoyer nos enfants pour en faire des prêtres, quand ils ont la vocation. Comme il est important, mes bien chers frères, de comprendre toutes ces choses-là et les mettre en pratique. Alors une note ici intéressante des pères, donc les ombres s'évanouissent devant la réalité, les figures disparaissent en présence de la vérité, une victime succède à une victime, le sang est remplacé par le sang et la solennité légale reçoit son accomplissement en faisant place à une autre. Le saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ va sauver les hommes qui se perdaient avec le pouvoir du démon. Et ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, sacrifice de la croix, va être renouvelé de manière non sanglante après tous les jours par les billets de prêtres qui dans le monde entier, pendant les siècles et des siècles d'Église, ont célébré le saint sacrifice de la messe, renouvellement non sanglant de ce sacrifice de la croix. Hélas, aujourd'hui, combien y a-t-il de prêtres qui sont encore véritablement prêtres et qui célèbrent le saint sacrifice? Autrement qu'en union avec Bergoglio. Bien peu, mes bien chers frères. Autre note des pères, là, en bas de la page 1. Ce fut le mercredi matin que Judas vendit son maître pour 30 deniers. C'est pourquoi les premiers chrétiens étaient habitués à jeûner le mercredi, en témoignage de saint Augustin. Les Grecs, les habitants de Pologne et de Hollande jeûnaient également en ce jour qui avait vu la chair du Christ être vendue. Donc Judas a vendu notre Seigneur pour 30 deniers. Il a reçu l'argent que le jeudi soir, après avoir embrassé son maître au jardin des Oliviers, et notre Seigneur Jésus-Christ va mourir le vendredi saint. Donc le sacrifice de l'agneau qui avait lieu pendant la Pâque représentait le Christ qui allait être sacrifié en cette même date. Le Christ était vraiment l'agneau pascal qui allait souffrir sur la croix pour la rédemption du monde entier. Voilà pourquoi, juste avant la communion du prêtre, puis après des fidèles, le prêtre rappelle justement cette phrase que le Ecce agnus Dei, Ecce qui tolit peccata mundi, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Et on répète trois fois, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, dans mon âme, parce que dites une seule parole et mon âme sera guérie. Donc, rappelons-nous, mes bien chers frères, tout tourne autour de la Sainte Messe, parce que tout tourne autour du sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, sacrifice de la Passion. Pourquoi ? Parce que le Christ est l'agneau pascal, le nouvel agneau, de même que l'agneau d'Ancien Testament, le sang de l'agneau de l'Ancien Testament a servi à préserver les Hébreux de l'ange exterminateur qui allait tuer les premiers-nés d'Égypte. De la même façon, le sang du nouvel agneau, notre Seigneur Jésus-Christ, au Vendredi Saint, va préserver la nouvelle Église, à savoir l'Église catholique, de la corruption du monde. Et puisque ce sacrifice est tellement important, Dieu n'a pas voulu nous laisser seuls et a donné à ses prêtres le pouvoir de renouveler de façon non sanglante ce sacrifice par le saint sacrifice de la messe. Page 2 du Polycopier, versets 6 à 13. Je conseille beaucoup à tous ceux qui n'ont peut-être pas les idées très claires sur ces points de catéchisme, de revoir tout simplement leur catéchisme. Reprenez le catéchisme qui est sur mon site internet, sur le site d'Anne-Marie, dans les catéchismes, l'onglet catéchisme, vous avez tout le catéchisme sur la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe. Reprenez également tous les textes de Saint Thomas que vous avez également sur le site d'Anne-Marie, avec toutes les magnifiques commentaires de Saint Thomas d'Aquin sur la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a vu avec les versets 1 à 5, donc les princes des prêtres veulent se saisir de Jésus, le font mourir, ont accepté la trahison de Judas. Et là, il y a un petit passage. C'est au chapitre 26, versets 6 à 13. Comme une coupure du récit, avec un passage magnifique. C'est l'onction à Béthanie, versets 6 à 13, page 2 du Polycopier. Saint Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Elle le répandit sur sa tête pendant qu'il était à table. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : à quoi bon cette perte ? Car on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Mais Jésus, sachant ce qu'il disait, leur dit : pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Car elle a fait une bonne œuvre à mon égard. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait en vue de ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout sera prêché cet évangile, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Alors évidemment, première question qui se pose, qui est cette femme ? Alors là, il n'y a pas union entre tous les pères. D'après l'évangéliste Saint Jean, il est clair que cette femme est Sainte Marie-Madeleine, la sœur de Saint Lazare, la sœur de Sainte Marthe. Cependant, certains pères pensent que cette femme était une autre personne. Cependant, je pense qu'il est plus traditionnel de suivre le texte qui est évident ici, qui et dessus les pères qui prétendent que c'est bien Sainte Marie-Madeleine. Alors, donc, il y a, selon les pères, il y a plusieurs opinions qui sont précisées ici. Voilà le texte des pères. À s'en tenir au récit des trois évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Jean, serait une seule et même personne. Donc, parce que c'est pas la première fois qu'il y a cette chose extraordinaire. Donc, cette femme qui vient, qui prend un vase d'albâtre, qui va briser le vase d'albâtre pour répandre le nard précieux sur la tête de notre Seigneur. Ça avait déjà été fait, mais à la première fois, il y avait une différence essentielle qu'on va expliquer maintenant. C'est que la première fois, Sainte Marie-Madeleine avait versé le nard précieux, le parfum précieux, sur les pieds de notre Seigneur. Alors qu'ici, la deuxième fois, juste avant la Passion, elle le répandit sur sa tête. Bon. Ce n'est pas sans raison que l'évangéliste rappelle que Simon était lépreux. Il veut ainsi nous apprendre ce qui inspira à cette femme la confiance de s'approcher de Jésus. La lèpre était une maladie qui rendait impure, et cette femme, voyant que Jésus en avait guéri cet homme chez qui elle se trouvait, conçut la ferme espérance qu'il pourrait facilement purifier son âme de la lèpre impure du péché. Non. Tandis que toutes les autres femmes ne s'étaient approchées de Jésus que pour lui demander la guérison de leur corps, seule cette femme s'approcha du Sauveur, disent les pères, pour lui rendre les honneurs qui lui étaient dus, pour en obtenir la guérison de son âme, car elle n'avait aucune infirmité corporelle. Aussi est-ce là ce qui la rend vraiment digne de notre admiration. C'est l'admiration des pères devant Sainte Marie-Madeleine qui vient voir adorer notre Seigneur Jésus, qui non pas pour demander à être guéri comme la plupart des Juifs. La plupart des Juifs qui venaient à notre Seigneur Jésus-Christ venaient parce qu'ils étaient estropiés, ils étaient paralysés, ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas, ils étaient muets, ils ne pouvaient rien faire, ils avaient un corps perclus de tous les côtés, alors ils venaient demander leur guérison corporelle. Et notre Seigneur Jésus-Christ avait bien du mal avec tous ces gens-là à élever le débat pour leur faire comprendre que s'ils étaient malades physiquement, il y avait une maladie bien plus grave qui était la maladie du péché. C'est le paralytique qui est descendu par le toit devant notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne peut plus bouger, il est sur son grabat. Et qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Vos péchés sont pardonnés. Pour bien montrer qu'il est venu pour les âmes, pas simplement pour les corps. Mais là, c'est ça la beauté du geste de Sainte Marie-Madeleine, c'est qu'elle n'a pas d'infirmité corporelle. Elle est en bonne santé. Donc elle ne vient pas pour demander une guérison personnelle, elle vient pour son âme. Voilà pourquoi Sainte Marie-Madeleine a toujours eu une place extraordinaire dans la liturgie catholique et dans la dévotion surtout au Moyen-Âge. On peut dire que après être Sainte Vierge Marie, bien sûr, qui est un peu hors concours, après la Très Sainte Vierge Marie, les deux saints du Moyen-Âge qui étaient les plus vénérés en Europe, c'était Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean-Baptiste. Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient, surtout dans Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, c'est une pécheresse publique. Elle avait été convertie il y a déjà longtemps, parce qu'elle a été convertie tout à fait au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Simplement, en entendant un sermon de notre Seigneur, elle a été convertie. Et là, juste avant sa mort, elle renouvelle son geste. Mais cette fois-ci, au lieu de verser le parfum sur les pieds de notre Seigneur, elle le verse sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après l'évangéliste Saint Jean, au contraire, ce ne serait pas la même personne, mais une autre, la sœur admirable de Lazare. Donc vous voyez, selon les pères, il y a différentes idées là-dessus. Ils pensent donc que la femme dont il est question n'est point différente de la pécheresse qui était venue se jeter alors aux pieds de Jésus, et que c'est la même appelée Marie qui a fait la même action dans deux circonstances différentes. Et c'est l'explication la plus traditionnelle. On voit très bien dans Cornelius à Lapide, entre autres, et aussi chez saint Thomas d'Aquin, dans tous les textes que j'ai compulsés des pères, donc c'est la ligne la plus traditionnelle de penser que cette femme, dont le nom n'est pas cité ici, une femme s'approcha de lui, que cette femme est en fait Sainte Marie-Madeleine. Il est aussi intéressant de voir que les modernistes systématiquement pensent que c'est une autre femme. Alors la bonne odeur, donc on va après la signification justement des La différence entre les pieds et la tête, et les textes admirables des pères de l'Église en bas de la page 2, je vous les donne rapidement. Donc ce vase d'albâtre contenait un art très précieux, donc un parfum de grand prix. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rompre le col du vase. Ce vase était fermé à la cire, donc elle va rompre le col du vase, un vase d'albâtre, pour en verser le contenu sur la tête de notre Seigneur alors qu'il était à table. Et cela représente la bonne odeur du Christ. La bonne odeur figure la bonne réputation. Et celui qui s'enrondine par les œuvres d'une vie vertueuse, en suivant les pas de Jésus-Christ, semble répandre sur ses pieds un parfum de grand prix. C'est ce que signifient ces paroles. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait en vue de ma sépulture. C'est-à-dire qu'en répandant ce parfum sur mon corps pendant ma vie, elle a comme annoncé ma mort et ma sépulture. Donc, c'est un geste d'honneur de Sainte Marie-Madeleine envers l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle savait très bien que cette humanité était unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, même si malheureusement, Sainte Marie-Madeleine, comme tous les apôtres, va oublier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elle va venir avec les saintes femmes le jour de Pâques au matin pour accomplir les derniers devoirs à l'égard du corps d'un défunt, parce qu'elle avait oublié justement qu'il était Dieu. Alors là, et voilà le sens mystique qui est magnifique derrière tout ça. Le sens mystique, celui qui doit souffrir pour l'univers entier, s'arrête à Béthanie. Béthanie, c'est la maison, là où était la maison de Sainte Marie-Madeleine et Saint-Lazare. S'arrête à Béthanie dans la maison de l'obéissance, autrefois la maison de Simon le lépreux. C'est là où aussi habitait la famille de Sainte Marie-Madeleine. Et également Simon le lépreux. Simon veut dire obéissance. Et selon une autre explication, il signifie le monde, et c'est dans sa maison que l'Église a été guérie. Partout dans les Saintes Écritures, l'huile signifie ou une œuvre de miséricorde qui entretient la lampe de la parole et lui donne son éclat, ou la doctrine destinée à nourrir la parole de la foi qui brille en nous comme une lumière. C'est tout le symbole de l'huile. L'huile était d'abord utilisée dans l'ancien temps, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, pour éclairer. Les lampes à huile, il n'y a pas d'électricité à l'époque. Les lampes à huile qui brûlaient la nuit, le soir, pour éclairer. Donc c'est clair, mais elle était aussi utilisée pour guérir et pour réchauffer. Donc l'huile représente la lumière, représente le Dieu rédempteur, la lumière du monde, et représente aussi le Dieu qui vient guérir les âmes. L'huile était, les masseurs mettaient de l'huile sur les corps justement pour guérir les corps, pour assouplir les muscles et empêcher les douleurs. Donc cette huile, cette lampe à huile qui brûle, la lampe représente la charité, je vous l'ai déjà expliqué souvent. La lampe elle-même représente la foi, l'huile, l'espérance, et la lumière qui brûle, la mèche qui brûle, représente la vertu de charité. Et ça représente donc aussi la foi qui va briller dans nos âmes comme une lumière. Donc, pour que la charité puisse briller en nous comme une lumière, il faut que cette charité soit alimentée par la foi et par l'espérance. Il ne peut pas y avoir de charité sans foi et espérance. Celui qui a la charité, c'est-à-dire l'état de grâce, ipso facto, immédiatement, il a aussi en lui la foi et l'espérance. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Quelqu'un peut vivre malheureusement dans le péché mortel, avoir encore la foi et l'espérance, même de façon informe, mais ils n'ont plus la charité. Donc ceux qui agissent pour Dieu recueillent surtout le prix dans l'autre vie, et c'est un parfum qui exhale une odeur délicieuse. Quelquefois, ils agissent dans l'intérêt du prochain en faisant des aumônes et d'autres œuvres semblables. Et celui qui exerce ses œuvres de miséricorde à l'égard des chrétiens répand des parfums sur les pieds de Jésus-Christ. Donc, Sainte Marie-Madeleine qui, au moment de la première occasion où elle a répandu le nard précieux, le parfum précieux sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'était juste après sa conversion, ou juste avant sa conversion, plus exactement, tout à fait au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va répandre ce parfum précieux sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cette action représente la repentance des péchés. C'est ce que font ordinairement les pécheurs repentants pour obtenir la rémission de leurs péchés. Donc à chaque fois que qu'un pécheur que je suis, que nous sommes tous, on se met à genoux au confessionnal et on dit au prêtre, bénissez-moi mon père parce que j'ai prêché. Au moment où le prêtre nous donne l'absolution, ben nous renouvelons ce même geste. Nous versons en quelque sorte l'huile, le parfum de notre contrition, de notre repentir sur les pieds sacrés de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où le prêtre nous donne l'absolution, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au contraire, le parfum qui est versé, c'est le cas ici par Sainte Marie-Madeleine, cette fois-ci, juste avant, non plus au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, mais tout à fait à la fin de sa vie publique, juste avant sa passion, sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en toute lettre dans le texte, verset 7 du chapitre 26, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Elle le répandit sur sa tête pendant qu'il était à table. Qu'est-ce que représente cette tête? Donc celui, au contraire, disent les pères, qui s'applique à la pratique de la chasteté, qui persévère dans les prières, dans les jeûnes et dans les autres œuvres, qui ne tente qu'à la gloire de Dieu, répand des parfums sur la tête du Seigneur. C'est un parfum précieux dont l'odeur se répand dans toute l'Église. C'est l'œuvre propre, non pas des pénitents, mais des parfaits. Au début, il faut d'abord effacer nos péchés. Donc, il faut la repentance de nos péchés. Pécheur repentant qui veut obtenir la rémission de ses péchés. Donc, on verse le parfum de notre repentir sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au contraire, à la fin de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire aussi à la fin de la vie spirituelle, une fois qu'on a passé par la période de la vie purgative, de la vie illuminative, qu'on est arrivé en vie unitive, à ce moment-là, disent les pères, on est arrivé à la perfection spirituelle, et il est temps à ce moment-là de verser l'huile sainte, le parfum précieux, non pas sur les pieds, mais cette fois-ci sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça représente les œuvres les plus belles, à savoir la pratique de la vertu de chasteté. Alors d'autres explications, encore une fois, sur certains passages. Les pères ont beaucoup parlé, mais ce ne sont pas forcément les mêmes explications qui sont données à chaque fois. Voilà d'autres explications en haut de la page 3 du polycopié, donc qui couvre les chapitres 26 à 28 de Saint Matthieu. Le parfum répandu sur les pieds du Sauveur, c'est la doctrine qui est nécessaire aux hommes. Tandis que la connaissance de la foi, qui n'a pour objet que Dieu, est le parfum répandu sur la tête de Jésus-Christ. Et c'est ce parfum que nous sommes, par le baptême, ensevelis, et c'est par ce parfum, pardon, que nous sommes par le baptême ensevelis avec Jésus-Christ pour mourir au péché. Voilà pourquoi on met aussi, l'évêque va mélanger, pour faire le Saint Crème qui est utilisé pour le baptême, justement, va mélanger l'huile sainte avec du baume. Le baume rappelle ce parfum, ce nard d'un grand prix qui a été utilisé par Sainte Marie-Madeleine. Et on va utiliser ce Saint Crème non pas avant le baptême mais après le baptême. Avant le baptême, l'onction par le prêtre sur le nouveau-né, sur le baptisé, sera faite avec l'huile des catéchumènes. Mais à la fin du baptême, après le baptême, après l'ablution, donc on a devant nous non plus un enfant du démon mais un enfant du bon Dieu. Le péché originel a été éliminé, la charité illumine cette âme. Alors à ce moment-là, la deuxième onction sera faite avec le Saint-Crème au sommet du crâne, lieu de l'intelligence, lieu de l'âme. Donc, par ce parfum, nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ pour mourir au péché. Donc, cette femme, dit Saint-Hilaire, figure le peuple des gentils. C'est elle qui, dans la passion de Jésus-Christ, rend gloire à Dieu, car elle a répandu des parfums sur sa tête, et la tête du Christ, c'est Dieu. Donc l'huile, c'est le fruit des bonnes œuvres. Vous voyez, donc il n'y a pas de consensus chez les pères. Tous les pères ont des idées un petit peu différentes sur ces explications qu'ils donnent, mais toutes sont très belles. Donc c'est Sainte Marie-Madeleine qui est maintenant complètement convertie, qui a été pardonnée de ses péchés, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Les pierres n'ont pas été lancées. Sainte Marie-Madeleine s'est complètement convertie. Eh bien, elle est maintenant capable de verser, elle va non plus être aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ en pleurs, en larmes, pour demander le pardon de ses péchés. Ses péchés ont été pardonnés, ses péchés ont été oubliés. Alors elle se place derrière notre Seigneur Jésus-Christ et elle va répandre sur sa tête, donc notre Seigneur Jésus-Christ était sur une espèce de divan, comme il le faisait au temps des Juifs, à moitié allongé sur un divan, sur le coude, et donc elle passe par derrière et elle va verser ce nard précieux, on dit sur la tête, mais en fait c'était sur les cheveux de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples, dans le désir qu'ils avaient de sauver Israël, prétendent qu'on aurait dû vendre ce parfum pour en distribuer le prix aux pauvres, c'est-à-dire aux Juifs, qu'ils appellent par une inspiration prophétique des pauvres, comme étant privés des richesses de la foi. Et le Seigneur la déclare qu'ils auront tout le temps nécessaire pour prendre soin des pauvres. Donc on voit très bien là que notre Seigneur Jésus-Christ ne recherche pas du tout Sainte Marie-Madeleine. Au contraire, il sait qu'elle fait là un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité extraordinaire. Donc, elle reconnaît que cet homme qui est allongé devant elle, sur ce repas, chez Simon le lépreux, cet homme est véritablement le Fils de Dieu. Voilà pourquoi elle va maintenant oser toucher la tête de notre Seigneur Jésus-Christ avec le parfum, parce que ses péchés ont été pardonnés. Donc, n'ayons pas, mes bien chers frères, la prétention de pouvoir verser directement l'huile de la charité, en quelque sorte, sous la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, sans avoir d'abord versé le même parfum sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de recevoir la Sainte Communion, c'est un petit peu le symbole qui est là, avec ce parfum qui est versé sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de recevoir la Sainte Communion, il faut passer par le confessionnal. Le confessionnal est représenté par l'huile qui est versée avant la conversion, au moment de la conversion de Sainte Marie-Madeleine, sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, puisqu'elle a prouvé par 3 ans de vie pénitentielle qu'elle était maintenant complètement changée, alors elle peut s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette fois-ci, elle va verser l'huile du parfum sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ce n'est que par son ordre express qu'ils pourront porter le salut aux gentils qui ont été ensevelis avec lui, couverts du parfum répandu par cette femme, car la régénération ne sera donnée dans le baptême qu'à ceux qui seront morts avec lui. Or, partout où l'évangile sera prêché, on racontera ce qu'a fait cette femme, parce qu'après la chute du peuple d'Israël, la foi des gentils proclamera la gloire de l'évangile. Oui, mais bien, chers frères, comme il faut méditer ces passages-là. Plus on se rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ, plus il faut avoir le cœur pur. Donc celui qui n'a pas le cœur pur ne peut pas s'approcher du corps de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion. Il faut d'abord passer encore une fois par le sacrement de pénitence. On se met d'abord à genoux aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. On pleure, on essuie les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses larmes. C'est les larmes de la contrition, les larmes de l'accusation, les larmes de regret de ses péchés. Puis, une fois qu'on a vraiment regretté ses péchés, notre Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné par la Sainte Absolution, alors il faut prouver notre changement de vie par un changement de mœurs, évidemment. Et puis, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va commencer sa passion, alors on peut passer derrière lui et là verser non plus des larmes de componction, des larmes de regret de nos péchés, mais des larmes d'amour, parce qu'il n'y a plus de péché. Le péché a été effacé par notre Seigneur Jésus-Christ, et cette fois-ci, on peut verser le parfum de la componction, justement, sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, une petite note des pères. Plusieurs pères pensent que Simon fut un lépreux, mais qu'il a été guéri par le Christ. Selon Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine avait déjà lavé de ses larmes les pieds du Seigneur 2 ans auparavant, enfin c'est presque 3 ans, au moment de sa conversion. Elle refit le même geste 6 jours avant sa mort, avec un art précieux parti dévotion partit sous une inspiration divine, comme une sorte de prophétie de la mort et de l'enterrement du Christ qui approchait rapidement. Elle brisa donc le col du vase du parfum pour en verser le contenu sur la tête du Christ. Voilà, nous allons arrêter ici. Finir par une petite prière. Donc je conseille beaucoup tous ces passages magnifiques. Relisez, si vous avez le temps, relisez le texte des... le texte de, du polycopier pendant cette semaine avant le prochain cours, justement pour bien vous habituer à ces commentaires des pères de l'Église. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.